Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
La France en campagne, entre réel et ressenti. Avec les rigueurs hivernales, les météorologues sont venus nous rappeler ce qu'ils nomment l'effet double perception. L'une, en principe, est objective, c'est celle de la réalité, mesurée par des chiffres ou le thermomètre. Pas de doute, il fait froid. Et l'autre, c'est celle du ressenti, plus subjective, il fait très très froid. Il suffit en effet qu'un vent mauvais accompagne la baisse des températures pour que son ressenti soit fortement majoré. Un moins 5 serait perçu, dit-on, en moins 12 par exemple. Comment ne pas faire l'analogie avec la situation économique et sociale française sur laquelle souffle le froid et le chaud de postures partisanes et de la campagne présidentielle? Des idées fausses, savamment entretenues, alimentent le pessimisme national dont nous sommes hélas devenus les champions, pénalisent l'objectivité du diagnostic et en conséquence notre capacité à prendre les bonnes décisions pour notre avenir. En voici, entre autres, trois exemples. En premier lieu, le mythe de la France inégalitaire porté par les discours des candidats. Je serai le candidat de la fin des privilèges, je rétablirai la justice. Mais aussi par l'opinion et les médias qui ne sont pas très éloignés de ce ressenti de déficit égalitaire et de justice. Mais que dit le thermomètre? Eh bien, absolument l'inverse. Comme le relève Christian Saint-Étienne dans son remarquable ouvrage « L'incohérence française » paru chez Grasset, la France détient le record du monde de la dépense de protection sociale, 33% du PIB. Le système de retraite le plus généreux de la planète, 14% de la production intérieure brute contre 8% à l'OCDE. Les écarts de revenus, c'est-à-dire le ratio entre les revenus après impôts des 10% les plus élevés contre les 10% les plus faibles, après prélèvements et impôts. Les plus faibles sont des pays avancés, un multiplicateur de 4 contre 6 en Europe et 7 aux USA, tandis que 20% des ménages les plus aisés paient la quasi-totalité de l'impôt sur le revenu. Certes, on peut comprendre le chagrin des classes moyennes, comme l'a si bien indiqué Nicolas Bouzou dans son ouvrage du même titre, le chagrin des classes moyennes, mais ne sont-elles pas aussi une forme d'expression de l'égalitarisme? De même que l'on peut être choqué par la situation des travailleurs pauvres, déstabilisés notamment dans les grandes métropoles urbaines par le prix du logement, ou bien encore par la part des revenus de 1% des plus riches, qui certes représentent 8%, mais après redistribution, tombe à 4%. Il faut quand même savoir que dans des pays développés comparables, ce taux est compris entre 10 et 15%. Il n'en reste pas moins que si 10% de la population française est en difficulté ou en souffrance, 90% bénéficient d'une situation que l'on peut considérer comme enviable par le reste du monde en termes de niveau de vie, protection sociale, d'éducation pour les enfants, de santé ou même de retraite. Aussi, cette perception erronée de la réalité, outre qu'elle est dramatique pour le moral des ménages, donc pour la consommation et la croissance, constitue l'un des grands leviers du toujours plus des dépenses publiques, dont la France est devenue le grand leader avec 56% de son PIB, soit 10% de plus notamment que l'Allemagne. Ce ressenti d'une dépense publique insuffisante pour être égalitaire et forcément négative lorsqu'elle baisse reste l'une des grandes lunes de la société française. Là encore, que dit le baromètre? L'excès de dépenses publiques, financé, je rappelle, à 60% à crédit, dépasse celui de la zone euro de 8 points en 2011 contre 2 en 1992, avec aucun effet mesurable sur la qualité de la vie, si ce n'est un dérapage de la dette passant de 59% en 1998 à 85% en 2011, et on est sur une tendance qui se rapproche de plus en plus de 100% du PIB. Or, n'en déplaise aux keynésiens, ni la croissance, ni l'emploi, ni l'échec scolaire, ni la précarité n'en ont plus bénéficié que dans les pays les plus vertueux. Au contraire, c'est donc plus le ciblage contrôlé de la dépense publique sur les 10% les moins favorisés que le niveau en valeur absolue ou le saupoudrage qui est susceptible de rapprocher le vécu de l'opinion au réel. Enfin, troisième élément, l'idée selon laquelle les banques françaises, entre guillemets « sauvées par le contribuable », ne financent pas assez l'économie et préfèrent spéculer, relève du fantasme, rappelons de l'amalgame avec les dérives anglo-saxonnes et insulte la réalité des faits. Rappelons d'une part que l'intervention temporaire de l'État lors de la crise de liquidité mondiale de 2008, n'a non seulement rien coûté aux contribuables, mais a rapporté 2,4 milliards au budget. C'est juste l'inverse de ce qui a été dit et ce qui est devenu le ressenti de l'opinion. Quant au financement de l'économie, les banques françaises sont les plus engagées en comparaison avec tous les autres systèmes européens ou anglo-saxons. Ainsi, sur les trois années les plus noires de la crise, 2008, 2009, 2010, la progression des encours de crédit a toujours été positive et supérieure à celle du PIB national. En 2011, cet encours de crédit a progressé de 6% contre 1,5% au PIB. Et toujours supérieure, cette progression, à celle de la zone euro et des États-Unis. De plus, les conditions de financement sont plus attractives en France qu'ailleurs en raison d'une intermédiation bancaire plus forte que dans les autres pays qui s'adressent majoritairement au marché. Enfin, s'agissant des risques et de la spéculation, les banques françaises ont de façon significative renforcé leurs fonds propres et elles seront dès 2012 aux normes réglementaires internationales en dépit de la crise de solvabilité des États qui ont, eux, perdu le contrôle de leurs dettes souveraines en faisant supporter au secteur privé et donc aux banques leur négligence et leurs indécisions. L'image calamiteuse que supportent les banques françaises relève donc d'un ressenti qui ne résiste pas à une analyse objective. On y voit les effets d'une culture historique de la société française contre l'argent et la finance, mais aussi d'un cynisme politique qui a fait dire à un responsable socialiste de haut niveau récemment « Taper sur les banques est une garantie de recettes dans l'opinion » et à gauche comme à droite, on a besoin de recettes. Sans doute, cet opprobre prend aussi sa source auprès d'emprunteurs potentiels déçus par le fameux pouvoir de dire non, qui est en réalité un devoir lorsqu'on utilise pour son propre compte les dépôts du public pour le financement de l'économie nationale, ce qui reste la noble mission des banquiers français, mais qui engage aussi leur responsabilité dans la bonne fin des crédits. Le surendettement des particuliers est toujours un risque, et les entreprises françaises sont particulièrement fragiles. Trop petites pour supporter le poids exorbitant de la sphère publique, faiblement rentables, taux de marge est inférieur à 25% à celui des entreprises allemandes, avec une insuffisance de fonds propres, d'innovation et d'investissement, ce qui, vous le conviendrez, n'est pas très engageant pour un prêteur. En réalité, si les banques françaises ont particulièrement bien traversé les crises récentes et restent, comme le disait Benoît Prot, dans la fameuse revue d'économie financière en décembre 2011, si elle reste efficace, citoyenne, adéquatement supervisée et disposant d'une capacité d'action mondiale, c'est que tout simplement leur modèle est bon, alors pourquoi en changer ? Devenu l'un des champions mondiaux d'un secteur clé du financement de la croissance, les banques françaises constituent un atout stratégique indéniable pour notre compétitivité. Les sous-estimer, les pénaliser et plus encore, prétendre les punir relève tout simplement de l'erreur stratégique majeure dont il faudra tôt ou tard payer le prix. Ainsi donc, entre le réel et le ressenti, avance une France hésitante, à l'aube de profondes remises en cause qu'elle pressent comme une exigence de maîtrise de son avenir, avec l'espérance que celles et ceux qui prétendent lui faire prendre le chemin durable du redressement et de la compétitivité aient la lucidité et le courage moral de résister à la tentation de jouer avec les peurs et les rêves de l'opinion. Mais le grand défi reste la capacité à faire partager par l'opinion une réalité qui n'est ni tragique, ni inégalitaire, et encore moins aux puissances de l'argent, et d'en finir avec cette ultime utopie de la perfection égalitaire qui menace la démocratie. Merci à vous.